La rencontre de Totemic aujourd'hui, c'est avec Roman Frécinet, auteur humoriste. Il a 30 ans et il a passé presque la moitié de sa vie sur scène. Pourtant, à certains moments de la conversation qui suit, sa voix n'est pas loin du murmure. Totemic aujourd'hui, c'est l'histoire d'un garçon qui a toujours eu la foi.
Et c'est marrant, quand j'avais 16 ans, je suis parti voir une espèce de psychologue de l'orientation. Et bon, je savais, moi j'avais mes certitudes déjà. Donc à la sortie de là, elle m'a dit, bah c'est simple, on est là, mais vous savez déjà ce que vous voulez faire. Vous voulez monter sur scène, faire des spectacles? Je dis oui. Elle m'a dit, vous avez un plan? J'ai fait mon plan. Et mon plan, il allait à peu près jusqu'à 33 ans.
Ah ouais?
Ouais. Et elle m'a dit, et après? Je dis, après on verra. Tout est possible.
Une échappée avec Roman Frécinet, c'est Totemic jusqu'à la prochaine heure. J'étais donc en bas de chez lui et j'ai tout fait, comme la dame a dit. Frécinet, F-R-A-Y-2-S-I-N-E-T, Roman, quatrième étage. Il sera à l'Olympia pour 18 dates à la fin de l'année et commence une tournée dans toute la France dès septembre. Il a démarré son parcours d'humoriste à Montréal et ça commençait tellement bien qu'il avait un peu la trouille de rentrer en France. Mais ça a marché pour lui, ici aussi. Après un premier spectacle, des chroniques dans l'émission Clic sur Canal, qui ont fait des millions de vues sur YouTube, Roman Frécinet s'est lancé dans une trilogie. Il a pensé trois stand-up intitulés « Au-dedans » en 2023, « Au-delà » cette année, et la suite est à venir. Il appartient donc à la génération des stand-uppers des années 2020, et l'un de ses aînés l'a sollicité pour écrire. C'est Gad Elmaleh. Roman Frécinet donne peu d'interviews, son truc, c'est le terrain, et il arrive sans doute à un moment de son parcours où l'enjeu est d'être compris, plus qu'adulé. J'ai grimpé 4 étages, il m'attendait sur le seuil et en chaussettes.
Totemic. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Mon petit cocon.
Je me faufile.
Ouais, bon, y a des tableaux, là, c'est mon atelier d'écriture.
Ici?
Ouais, et de production aussi, c'est là qu'on fait tout.
Je savais pas qu'il y avait un atelier d'écriture.
Avant, je le faisais beaucoup dans les cafés, mais maintenant, c'est plus compliqué. Donc, j'ai fait ce petit cocon.
Ah, vous avez des chaussons, vous?
Ouais, bah, c'est pas pour moi. Et moi qui travaille avec moi, elle est dans les chaussons. Elle.
Ah ouais, d'accord.
Ouais. Je suis content de toute l'ambiance un peu bizarre du bureau, un peu détective des années 70, j'aime trop.
Il y a des colonnes. Des
ouais.
Colonnes de...
Bah, c'est une des raisons qui m'a fait prendre cet appart. Les colonnes au milieu comme ça, qui ont aucun rapport, je trouve ça génial. Elles sont même pas de la même taille. Elles sont... Je me suis dit, c'est qui le zinzin qui a fait mettre des colonnes comme ça au milieu? Je trouve ça génial.
J'ai vu qu'il y avait un ampli aussi, non? Avec,
oui.
Avec des guitares.
Il y a des guitares, ouais. J'ai une petite passion guitare, moi, quand même. Mais j'ai des guitares bien meilleures que mon niveau de guitare. J'ai jamais voulu prendre de cours de guitare, en fait, parce que je voulais pas que ça devienne scolaire. Donc je voulais que ce soit que de la découverte, du ressenti, etc. Donc j'ai refusé de prendre des cours depuis que je suis tout jeune. Je fais que faire n'importe quoi. Mais comme maintenant, là, ça fait 15 ans que je fais n'importe quoi, il y a un semblant de maîtrise de mon n'importe quoi.
Alors c'est marrant parce que vous n'avez pas pris de cours de guitare,
non.
Mais vous avez pris des cours d'humour.
Mmh.
Ça, c'est quand même assez original.
Ouais.
Puisque
oui.
Vous êtes allé dans une école de l'humour, une école nationale de l'humour. Je me disais qu'en France, on avait l'ENA. Et au Québec, ils ont les NASH, puisque c'est l'École Nationale de l'Humour.
Ouais.
C'est vraiment curieux, quand même.
Mais moi, mon histoire avec cette école, elle est particulière, parce qu'à la base, je ne voulais pas la faire. Je savais qu'elle existait, mais dans ma tête, j'avais la même mentalité qu'avec la guitare. L'humour, ça ne s'apprend pas. Et en fait, c'est mon ami Mehdi, avec qui je travaille maintenant tous les jours, qui m'envoie un message un jour pour me dire « Écoute, l'inscription de l'École de l'Humour, ça finit aujourd'hui, inscris-toi. » Et moi, en fait, j'étais à Montréal pour l'université, mais j'étais jamais allé à l'université parce que je passais mon temps à écrire dans les cafés et jouer le soir. Et donc, ils allaient m'enlever mon visa au Québec. Sauf que moi, je voulais rester au Québec. Je commençais ça commençait à exister un peu, mon histoire d'humoriste. Et à ce moment-là, j'ai 19 ans. Et donc, je m'inscris dans cette école. Au départ, juste dans l'espoir d'avoir un visa pour rester au Québec. Et parce que je me dis, bah, quitte à étudier quelque chose, autant que ce soit proche de ce que... Enfin, que ce soit ce que j'ai envie de faire, quoi. Même si j'y crois pas trop. Et en vrai, ça m'a été très bénéfique. En fait, j'ai compris que c'était un truc de professionnel. Qu'on a plus de chances de faire une carrière avec du professionnalisme qu'avec du talent.
Ah ouais?
Mais très largement. Très largement.
Mais alors, vous avez appris quoi, par exemple? Parce que moi, quand je pense École Nationale de l'Humour, je me dis, bah, y a des cours de quoi? Est-ce qu'il y a des cours pour la voix?
Oui.
Il y a des cours pour la voix ?
Oui, il y a des cours pour la voix, ou c'est un cours en plus qu'on a tendance à prendre à la légère quand on est à l'école, on se dit qu'est-ce que c'est ? C'est des cours de yoga et voix et tout. Et au final, tu réalises après, quand vraiment tu fais ça de ta vie, à quel point c'est important. Tout ce qu'on ne dit pas, les gens le ressentent par la voix. Déjà, si on ment, si les gens le ressentent, consciemment ou inconsciemment. Et donc, savoir placer sa voix, être à l'écoute aussi de « est-ce que je suis juste ?», ça, c'est la voix qui nous le dit. Mais surtout, je pense que ce que ça m'a appris là-bas, c'est ça m'a appris à prendre des risques, à essayer, en fait. Parce que quand j'allais faire des scènes, il y avait un souci d'efficacité, immédiat. Donc, il y a une tendance à vouloir aller vers un peu de facilité, parce qu'on veut que ça marche tout de suite. Alors qu'à l'école de l'humour, on m'a donné un espace où j'ai pu vraiment chercher, creuser, expérimenter des choses. Et je pense que ces années-là m'ont permis de découvrir le style que j'ai aujourd'hui et que je chéris.
Comment vous le définiriez, ce style, Roman Frayssinet ?
Souvent, j'ai utilisé le mot surréaliste, mais au final, là, je vois comment ça évolue et c'est moins surréaliste que ça l'était, même si ça le reste encore. Je lis en ce moment beaucoup de contes et je trouve qu'il y a un truc qui ressemble. Alors, peut-être autre que surréalisme, je dirais symbolisme. En fait, les mots, c'est un bon moyen de dire des choses, mais les symboles, c'est beaucoup plus fort. Il y a des émotions que je déteste. Celle que je déteste le plus, la jalousie. Oh, je déteste. J'ai l'impression de me salir.
Extrait de Au-dedans, spectacle que Roman Frayssinet a joué il y a 2 ans.
Et on est tous jaloux à notre manière, tous. Moi, j'ai une jalousie sournoise. Parce que je suis pas jaloux de ce que les autres y possèdent. Je m'en fous de ce que tu as. Je suis jaloux des qualités des gens. Genre, je vais voir un mec super généreux, je vais me dire « Enculé !» Et la dernière fois, je suis avec un ami à moi. Il m'amène dans une vente aux enchères pour les enfants malades. Déjà au début, je me dis « Qui achète des enfants malades ?» Je comprends pas. Là. Qui vend des enfants malades ? Comment on fixe les prix ? Je comprends pas l'économie de l'activité, là. Je suis dépassé. Après, on m'explique. On me dit « Il y a des objets en vente. » Et tout l'argent généré, il va au bénéfice des enfants malades. Je dis « Ah, ok !» Donc bon, je retire mon offre. Et tu vois la soirée. Tout le monde fait des dons, etc. Il y a des gens, ils font des dons de dingue. Et je devrais être à 100% heureux. Et je suis un peu jaloux. Parce que mon ego, il veut pas être le plus riche ou le plus célèbre. Il s'en fout. Mon ego, il veut être la meilleure personne de la Terre. Je sais pas pour qui il se prend. Mon ego, il est dans sa douche, il se caresse. Il se dit, on est quelqu'un de bien, nous. On est une bonne personne. Hein. Mon ego, il a pas besoin de porno. Il se branche sur des souvenirs de lui qui laisse du pourboire. Il est dégueulasse. Je veux pas que les gens sortent de là en disant, ah, il est intelligent. Je m'en fous. Même, je crois que pour servir les idées, le mieux, c'est que les gens aient soit l'impression qu'on n'est pas fait exprès, soit l'impression que ça vienne d'eux. En fait, je suis pas là pour me donner le bon rôle. Je suis au service d'une idée que j'ai envie de donner. Je fais des blagues, quoi. Je sauve pas des vies. Donc j'essaie de le faire du mieux que je peux, vraiment, avec une recherche profonde, voire philosophique, voire alchimique, même si on veut. Oui, il y a un truc mystique. Je m'y mets tout mon âme. Mais à la fin, ça reste des blagues. Je veux que ce soit léger, digeste, agréable. Je veux que ce soit une caresse, quoi.
On a la sensation que c'est une obsession.
Oui. Depuis toujours.
Depuis toujours ?
Oui, mais c'est presque un toc.
Mais en fait, là, vous avez quel âge ?
J'ai 30 ans. Et puis, j'ai fait que ça. Ça a toujours été, depuis mes 16 ans, ça a toujours été le centre de ma vie, surtout.
Vous n'avez pas fait d'autres boulots ?
J'ai jamais fait d'autres boulots. J'ai vendu des merguez un week-end à Montréal. J'ai travaillé un mois dans une piscine quand j'avais 16 ans. Non, j'ai fait que ça de ma vie. Voilà.
Ça veut dire que vous y pensez tout le temps ?
C'est pas un truc qu'on peut faire de 8h à 18h. Parce que je pense que les idées, c'est un truc mystique. C'est bizarre, ce truc-là. Et donc, il faut se mettre dans un état réceptif. C'est pour ça que souvent, les gens qui sont créatifs, ils sont un peu zinzin. C'est parce que c'est pas quelque chose qu'on peut mettre on et off. Surtout si on veut du résultat. C'est quelque chose dans lequel il faut plonger à 100%.
Et alors, quelle est la place de, justement, je suis tenté de dire, de la vie ? C'est-à-dire de la vie perso ?
Mais oui, il y a peu de place pour la vie perso. Ouais. Mais moi, je suis lucide et ça me va. Mais oui, très difficile. C'est pour ça d'ailleurs que je suis célibataire, que j'ai pas d'enfant. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de place pour on va dire, ne serait-ce qu'une relation amoureuse sérieuse. Il n'y a pas, la place.
Il y a un côté sacerdoce quand même.
Non, ça me plaît. J'aime ça.
Vous avez jamais douté de cette destinée, que c'était ça et que ça marcherait ?
Jamais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette certitude, elle m'a motivé et ça a été un pilier quand j'en avais besoin, dans les moments de doute. Et donc, est-ce que c'était de l'arrogance et de la débilité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle m'a rendu service. Parce qu'en fait, je n'ai pas perdu 1000 ans à me demander si c'était là ou pas que je voulais aller. Mon obsession, ça a été comment? Et c'est marrant, quand j'avais 16 ans, je suis parti voir une espèce de psychologue de l'orientation. Et bon, je savais, moi, j'avais mes certitudes déjà. Donc, sorti de là, elle m'a dit, bah, c'est simple, on est là, mais vous savez déjà ce que vous voulez faire. Vous voulez monter sur scène, faire des spectacles? Je dis oui. Elle m'a dit, vous avez un plan? J'ai fait mon plan. Et mon plan, il allait à peu près jusqu'à 33 ans.
Ah ouais?
Ouais. Et elle m'a dit, et après? Je dis, après, on verra. Et je suis encore exactement dans cette mentalité. Là, je sais que j'ai la trilogie. On joue le deuxième volet, là, au-delà. On le joue toute cette année. L'année prochaine, j'écris le prochain. Après ça, on le joue pendant un an. Et après ça, j'aurai 33 ans. Et là, tout est possible. C'est une remise à zéro. Je veux qu'il n'y ait rien d'obligatoire. Et je ne veux pas être condamné à être une personne publique si j'en ai pas envie. Peut-être que demain, j'arrête, je deviens cordonnier. Vraiment, enfin, tous les champs sont possibles. Tout est ouvert.
Extrait de Au-dedans, avant-dernier spectacle de Romain de Fraissinet.
Silence, dès que je peux. Avant, j'avais peur du silence, très peur. Parce que le silence, il t'invite à l'introspection. Moi, je voulais pas. J'avais pas envie. Donc, j'allais dans les endroits où il y a du bruit. C'est là où tu vas faire comme si tout allait bien. Tu vois, boîte de nuit, tout ça. J'ai kiffé les endroits où tu t'entends pas. T'as l'impression que tout se passe bien. Là, ça y est, j'ai mûri. Il y a un déclic. Quand 80% des DJ, ils t'énervent, t'as mûri. T'es sorti pour t'amuser, tu passes la soirée sur le dance floor et tu regardes mal le DJ comme ça. Et t'as envie de l'attraper, lui dire, écoute, il y a aucune chanson qui a besoin qu'on rajoute des klaxons dessus. C'est bon? Il y en a, ils m'énervent. Il y en a, ils prennent deux chansons exceptionnelles. Ils les mélangent pour faire une chanson catastrophique. Il y a ça que dans la musique. Jamais tu vas au cinéma, il y a un film jockey, il est là, il remixe les films à sa sauce. T'es parti voir Matrix, d'un coup, il y a un grand bateau, il coule, il remonte, il coule, 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 remonte, coule, coule. Qu'est-ce que tu fais, là? Personne n'est venu voir ma Titanic, mon ami.
Pourquoi tous les jours ne sont pas vendredis? On pourrait partir ensemble à Belle-Île.
Malik Judy, Vendredi, c'est le titre du morceau qui suit.
Pourquoi tous les jours ne sont pas vendredis? On pourrait ensemble avoir la belle vie. Allons faire un tour. Des jours vers un pauvre dormant sans répondre aux appels. On fera du radeau voyageant vers Bruxelles, écoutant la radio. Pourquoi tous les jours ne sont pas vendredi? On pourrait partir ensemble à Paris.
Romain de Fraissinet, Rebecca Manzoni, c'est Totémique sur France Inter.
Il est humoriste, démarre une tournée dans toute la France en septembre, avant 18 dates à l'Olympia à la fin de l'année. Roman Frayssinet a commencé à jouer son nouveau spectacle à Paris au printemps. Au-delà, c'est le titre, parce que c'est le précédent, qui s'intitulait Au-dedans, et un troisième volet est à venir. À chaque fois, il s'installe dans une petite salle du quartier du Sentier à Paris, qui s'appelle Le Sacré. Le sol est collant, le plafond bas, vous touchez les coudes de vos voisins tellement les chaises sont rapprochées, et la scène fait 2 mètres carrés. Roman Frayssinet, dans Totémique.
Je voulais commencer dans une toute petite salle parce que je voulais de l'intimité. Et puis aussi, je sortais d'un spectacle qui avait bien marché, mais je voulais pas me mettre en danger, mais je voulais continuer de progresser. Et pour ça, je pense qu'il fallait que je revienne dans des petites capacités.
Pourquoi ?
Parce qu'en fait, on peut pas tricher dans une petite capacité. Parce que les gens ressentent tout. Et on peut pas se mettre dans une posture où on est contraint à une obligation de vérité. Puis les rires durent moins longtemps, faut mettre plus de rythme, faut aller plus vite, faut...
Vous finissez en eau d'ailleurs.
Ah oui, j'adore, c'est physique quoi. Et donc je voulais une petite salle et j'avais cherché des théâtres et je trouvais rien qui me convenait. Et en fait je suis allé dans ce club qui est sacré, qui est une boîte de nuit à la base. Et à la base elle ressemblait pas du tout à ça. C'était vraiment une boîte de nuit avec une scène trop haute, le sol qui colle et tout. Mais je me suis dit c'est exactement ça que je veux, c'est parfait parce que ça nous sort du décorum du théâtre. Je voulais que les gens ils se disent, mais en fait, c'est pas un décorum de théâtre, c'est un mec qui monte sur un truc et qui parle. C'est tout. Il n'y a pas de quatrième mur. C'est un mec qui vient, il parle. C'est ça que je voulais. Et le son, en plus, comme c'est un club, le son, il est top. Et donc, je fais le spectacle d'avant, au-dedans, là-bas. Je m'entends très bien avec toute l'équipe du Sacré. Ils sont super. Et là, le gars du Sacré, il me dit, écoute, je dois faire des travaux. Et donc, je pense que dans mes travaux, je vais intégrer un truc pour qu'on fasse de la comédie vraiment. Et je lui dis, écoute, c'est super. D'expérience, écoute-moi. Mets la scène ici. Mais cette ambiance-là, et le mec, Nitish, que je salue, et ben, 2 mois après, j'arrive et il me dit viens, et la salle, il a fait exactement, il a fait mon rêve de salle. Et donc j'ai un plaisir dingue à jouer là-bas. Il y a une proximité, il y a une vérité, et les gens s'oublient, quoi, c'est ça que je veux. C'est pour ça que moi je préfère les salles où on est dans le noir, parce que le rire c'est très intime. Donc les gens ils ont tendance à pas trop rire quand ils sentent qu'on les voit, et quand ils sentent qu'ils sont... Quand ils se rappellent à eux-mêmes, j'ai envie de dire. Alors que quand les gens sont tous groupés, collés, etc., ils deviennent un groupe. Et là-dedans, ils s'abandonnent. Et là, on arrive à sortir des vrais trucs.
Et pour jouer, parce que pour donner l'impression que vous nous parlez, que voilà, c'est hyper fluide, c'est une conversation, et puis une idée en amène une autre, et par association, tout simplement. Ouais. Dans le jeu, ça imprime quoi ?
Je suis pas un acteur. Je me mets pas dans la peau de quelqu'un d'autre. Je viens dans ma peau à moi. Je viens comme je suis.
Alors que dans la tradition de ce qu'on appelle le one-man show français, la tradition, c'est d'incarner des personnages.
Oui.
C'est notamment la génération qui vous précède.
Oui, parce qu'ils sont héritiers du théâtre. En fait, c'est aussi pour ça que je suis parti à Montréal. Le stand-up américain, il n'est pas héritier du théâtre. Il est héritier du jazz, du blues. Des mecs qui étaient dans les clubs de jazz... Quand les musiciens faisaient une pause ou accordaient, il y a un mec qui parlait. Jusqu'à faire des blagues, jusqu'à ce que les gens ils viennent que pour le mec qui fait des blagues. Et c'est devenu le stand-up. Donc c'est pas héritier du théâtre. C'est pas un truc qui vient de « on joue des persos et on fait des persos qui font rire ». C'est héritier de la musique. C'est aussi pour ça que je voulais jouer dans un club. À la base, je voulais même chercher dans un club de jazz et tout, mais j'ai pas trouvé. Et donc c'est pour ça que la démarche est complètement différente. Et c'est pour ça que je dis que je suis pas un acteur. Pour moi, ce que je fais s'apparente beaucoup plus à la musique qu'au théâtre. Il y a une recherche de rythme, il y a une recherche de même s'il y en a dans le théâtre. Mais ce que je veux dire, c'est que à la fin, je le vois comme une œuvre presque musicale a cappella qu'une représentation théâtrale.
Là, la voix que vous avez choisi d'écouter, c'est pas la voix d'un comédien, c'est la voix d'un musicien, d'un chanteur.
Ouais, je l'adore.
C'est Jean-Jacques Goldman. Mmh. Alors, vous êtes né en 94.
Ouais.
Donc, vous n'êtes pas du tout la génération Goldman, en fait.
Ben oui.
Parce que Jean-Jacques Goldman, des années 90, enfin, il arrivait en fin de carrière que vous aviez 6 ans, finalement.
Ouais.
Donc, d'où sort Jean-Jacques Goldman dans la vie de Roman Frayssinet ?
Bah, je pense qu'il y a certains artistes qui font une œuvre qui dépasse les générations, quoi. Et Jean-Jacques Goldman, il en fait partie. Je pense que dans 20 ans, ça touchera encore des gens. Moi, je pense que même dans 50 ans, ça touchera des gens.
Quelle chanson, pour vous, par exemple ?
Bah, il y en a plein. Juste, on écoute, par exemple, la chanson « On ne change pas ». Qu'elle a écrite pour Céline Dion, avec... En plus, moi, ce que j'aime, c'est vraiment ces auteurs. Ils n'ont pas besoin de mettre de mots compliqués, Il y a cette folie-là un peu, des trucs de, un truc bien écrit, c'est un truc un peu incompréhensible avec des mots compliqués. Et je suis pas trop là-dedans. Moi, je crois que plus c'est digeste, mieux c'est écrit. Et lui, il a cette force-là, quoi. On ne change pas, on met juste des costumes d'autres sur soi. Mais c'est... Et c'est clair, c'est limpide, c'est une image, c'est...
On écoute Jean-Jacques ?
Ah ben, on écoute Jean-Jacques.
Là, ça remonte à 1984.
10 ans avant que je naisse. Mes parents,
Roman Frécidé, il y avait moins 10.
C'est génial, mes parents ne s'étaient pas rencontrés. C'est fou.
Alors...
Je sais que tu n'aimes pas qu'on dise du bien de toi. Pourquoi ?
Non. Ce que j'aime pas, c'est les cirages de pompe. Tu vois,
ouais,
genre, vous êtes une grande star, vous êtes numéro un, vous êtes formidable, mais... etc. Parce que tu sais pas quoi répondre à ces trucs-là. En plus, ça veut pas dire grand-chose. Mmh. Mais je crois, au contraire, que éventuellement, ce qui peut plaire, c'est justement ce côté pas strass, différent, etc. Peut-être que les gens sont attachés aux chansons parce qu'elles leur ressemblent et parce que je leur ressemble et que je suis pas différent. Peut-être. Enfin...
Est-ce qu'on peut te baptiser star marginale ?
Non, tu sais, j'avais entendu un Yves Montand, on lui disait « Vous êtes une star ». Il a dit « Star », ça veut dire « étoile » en anglais.
Ouais.
Et donc, ça, c'est quelque chose qui est loin des gens. Donc, je ne suis pas une star. Et alors, moi, je me sens bien comme ça parce que j'ai vécu 30 ans dans l'anonymat.
Ouais.
Et j'étais très heureux d'y être et je fréquentais des gens qui me plaisaient beaucoup. Mmh. Et je n'ai pas du tout l'intention que ça change.
Pour moi, pour moi, Jean-Jacques Goldman, c'est ça. Mais vous voyez, là-dessus, il a un truc aussi. C'est cette idée que lui, quand on lui dit qu'il est une star, il est poli. Il a limite envie de dire, mais vous avez rien compris. On s'en fout de ça. Et c'est ça que j'adore.
Mais vous l'avez recherché au départ, cette notoriété. Vous avez rêvé de ça.
Ah, mais pire même. J'ai été...
Pire, genre.
Mais non, mais j'ai tellement voulu que la reconnaissance. J'ai couru après. Déjà, j'étais jeune. Et puis, en vrai, je mets au défi n'importe quel être humain de garder la tête sur les épaules. Quand tu sais, je vois plein de gens qui disent « Ah, oh, lui, il a pris la grosse tête, il a ceci », en parlant de qui que ce soit. Mais les gens, ils comprennent difficilement. C'est comme être sous drogue. Dans le sens où les gens, en permanence, te renvoient une réalité qui est fausse. Et donc, c'est très difficile de ne pas prendre ce truc-là qui est faux pour la réalité. Quand tout le monde te traite comme si tu méritais ce traitement, tu te mets à croire que tu mérites ce traitement. Et donc, ça demande un recul pour se dire, en fait, la réalité qu'on me renvoie, c'est pas la réalité. Si tu te mets à croire les gens qui disent que t'es un génie, mais tu te niques ta vie. Et donc moi, bon, j'ai eu la chance où je me suis pas trop égaré. Je crois que j'ai compris assez tôt. Et puis j'avais aussi besoin voilà, j'étais un jeune homme qui avait tout mis dans sa vie pour arriver là. J'avais besoin de le célébrer un peu. Mais aujourd'hui, je suis bien plus épanoui en mettant moins d'importance à ça qu'à plein d'autres choses, quoi. Ce qui m'anime, c'est de faire un objet qui touche et qui a du sens.
Est-ce que ça vous fait jouer différemment d'être moins dans la quête de la reconnaissance de...
Oui, complètement. Déjà parce que je ne fréquente pas les mêmes endroits, donc je vis d'autres expériences qui nourrissent après ma vie et c'est ça que je raconte sur scène. Et donc je ne veux pas être pris pour un autre, quoi. C'est juste que je fais des blagues comme on fait des meubles, j'essaie de le faire du mieux que je peux.
On fait des blagues comme on fait des meubles.
Ouais, c'est de l'artisanat. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Je veux être un artisan. Mon obsession, c'est de faire des objets que j'ai essayé de réfléchir de A à Z, utiles et agréables et atemporels. Et oui, j'aime bien ça. Ça me plaît, ouais. De le voir comme ça, oui.
Elle est fantastique, elle s'appelle Doshi et l'un de ses tubes c'est celui-ci, Anxiety.
Anxiety.
C'est une petite pièce tout en longueur, avec deux colonnes antiques, une guitare électrique et au mur, un maillot de Zidane mis sous verre. Totémique aujourd'hui, c'est une rencontre au bureau, celui de Roman Fraissinet, humoriste. Son nouveau spectacle s'intitule « Au-delà ». C'est quoi ce cahier, là ?
Ouais, il y en a plein ici. Hein. Là, c'est comme ça que je répète le spectacle, vous voyez.
C'est
là,
quoi ?
C'est ça, des... c'est le spectacle.
C'est que des mots.
Ouais, ouais, il tient sur.
Enfin, c'est que des mots, je veux dire, il n'y a pas de phrase, c'est une liste, en fait.
C'est une liste de mots.
C'est... Il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ?
Voilà, par exemple, on prend au hasard, il y a écrit Einstein, graffiti, allemand, pluie, aéroport. Mais dans ma tête, j'ai tout le chemin. Je pense que le spectacle n'est écrit nulle part. Hein. Il n'y a aucun endroit où on trouve l'écriture du show, ça n'existe pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas. Parce que c'est une œuvre orale, donc rapidement, il faut quitter l'écrit. Donc j'ai mon idée.
Donc il n'y a pas de texte, en fait, là.
Il n'y a pas. Je vais devoir le taper, là, parce qu'administrativement, on en a besoin pour certains trucs. Je vais devoir taper le show, là, parce qu'il n'existe nulle part. Il est que dans la tête et...
Et avec les mots, là, pluie,
ouais.
Tout ça.
Ouais. Parce qu'en fait, admettons, j'ai un bloc de 5 minutes. Je le joue sur scène. Hop, là, il évolue. Il y a des trucs qui bougent, il y a des trucs qui... Il y a un rythme qui va avec, il y a une mélodie, il y a tout ça. Et là, ça devient comme une chanson. Moi, j'ai juste à commencer le début et ça m'enclenche cette mémoire. Parce que ça fait appel à une certaine logique. La chanson, là, si je vous demande de me faire toutes les paroles de la chanson, ça peut être compliqué. Je vous mets la chanson, vous me les sortez toutes les paroles. Parce qu'il y a la musicalité, il y a le truc, et ça devient une évidence que la suite, c'est ça. Et donc, bon, mes bouts, là, ça devient comme des chansons. Et ça, dans ma tête, je l'enregistre avec un mot. Je me dis, ce mot-là, il correspond à cette chanson. Ensuite, je me fais des listes avec les mots. Et donc, au lieu de me souvenir de tout un spectacle, je me souviens d'une liste de 20 mots qui sont... Chaque mot me déclenche la chanson.
Alors, si dans la liste, il y a le mot « modération », ça fait...
Les gens les plus forts de cette planète, c'est les gens qui sont capables de se modérer. Un carré de chocolat. Je savais même pas qu'il y avait des carrés. Pour moi, il y avait un rectangle avec des décorations dessus. C'est quoi cette histoire de carré ? Prévenez ! Un yaourt, c'est qui c'est ouf ? Un yaourt. Moi, j'achète des yaourts à 18h. À 19h, je fais une overdose à la vanille. Devant toi. Admettons, j'achète 6 yaourts. Les 3 premiers, je les tue. Je m'en rends même pas compte. Le 4e, je regrette chaque bouchée. Le 5e, c'est juste pour me prouver que c'est une mauvaise idée. Et le 6e, je me dis, au moins comme ça, il n'y a plus de yaourt, le problème, il est réglé. Voilà.
Et la télé ? Ça a apporté quoi, la télé ? En dehors d'une notoriété dingue, parce que dès qu'on passe à la télé, et en plus, c'est des séquences qui ont évidemment circulé beaucoup sur YouTube. Ça vous a repris quoi ?
En fait, si j'avais dû décrire les pires conditions pour jouer, j'aurais mis celle-là.
Ah ouais ?
Bah oui, c'est trop dur. T'es filmé, t'as qu'un essai. T'es devant des gens qui sont pas dans des dispositions pour rigoler. C'est le pire. Et on peut pas faire pire. Mais ça m'a fait progresser, quoi. Et surtout, ça m'a fait développer un style. Je pense, d'ailleurs, je l'ai senti, parce que quand j'ai commencé à faire les chroniques, j'avais un spectacle qui tournait. Et puis après, j'ai vu que je commençais à devenir meilleur que le spectacle avec les chroniques. Et je me suis dit, ah mince, là, les gens, ils viennent voir le spectacle parce qu'ils voient les chroniques, mais je suis devenu meilleur en chronique que... Je me suis dit, je veux faire un mélange entre la chronique et la scène. Et ça m'a fait beaucoup progresser, quoi. Et puis aussi dans une forme de confiance en moi, en me disant, je peux le faire. À Clique, il doit y avoir entre 3 et 5 heures de blagues. J'imaginais aujourd'hui, ce serait... Moi qui fais des spectacles de 1 heure comme un stand-upper, ça ferait entre 3 et 5 spectacles en 3 ans. C'est fou, c'est zinzin. C'est comme un mec qui fait des pompes. Tu fais 100 pompes tous les jours, au bout de 6 mois, tu les sens plus tes 100 pompes. Tu les fais tous les jours depuis 6 mois.
Pourquoi vous avez arrêté alors ?
Ça m'accrochait à l'actualité, la chronique. Mais je voulais me détacher de l'actualité. Voilà, j'avais fait le tour de ça.
Vous avez travaillé avec d'autres aussi. Je pense évidemment à Gad Elmaleh.
Ouais.
Déjà, ça a travaillé avec quelqu'un de la génération qui vous précède.
Ouais.
Qui, j'imagine, vous a influencé aussi.
Moi, c'est en voyant Gad quand j'étais adolescent. Je me suis dit, je veux faire ça dans ma vie. Donc ouais, c'est plus que... Même si j'en avais déjà vu d'autres avant et tout, c'est en voyant ce gars-là que j'ai assumé. Que c'est là que je voulais être. Et travailler avec lui, c'était super, parce qu'en vrai, c'est un travailleur fou. C'est un acharné. En fait, on s'est entendu parce qu'on a la même obsession de l'objet. Il est obsédé, et dans le bon sens du terme. par l'objet. Il est généreux sur scène, puis il est fou, il est fou. Et en vrai, en fait, il n'avait pas besoin de moi pour écrire des blagues. Il voulait un miroir, en fait. Il voulait des gens... Et puis je pense qu'il voulait des gens qui allaient le challenger, qui allaient pas se gêner à lui dire ça, on n'y croit pas, ça, non, ça, vas-y, plus. Je pense qu'il avait besoin de ça. Il avait besoin d'un sparring partner. En fait, ce qu'on a fait, c'est aller fouiller à l'intérieur. On a été dur avec lui. Donc on y allait avec Mehdi, que je citais tout à l'heure. Et les trois, souvent on allait faire des week-ends. On partait loin de Paris. On prenait une salle de plus petite capacité. Et il y a une fois en particulier à Genève où il nous raconte une histoire, puis deux histoires et trois histoires. Mais on parle comme des copains autour d'un café. Et on parle de choses de la vie, on parle de trucs plus ou moins profonds. Mais quand même, c'est souvent deep avec lui. C'est un mec très deep aussi. C'est là où on s'est entendu. Parce que c'est un mec qui n'a pas peur d'aller se poser des questions, même qui vont te déstabiliser, quoi. Et 10 minutes avant le show, on l'attrape, on lui dit, tu vois, cette histoire que t'as racontée, cette histoire et cette histoire, là, on veut que ce soir, tu les joues. Il dit, mais on n'a rien écrit, on n'a rien de prévu, on lui dit, on s'en fout. On lui dit, et puis là, on le provoque. On lui dit, t'es quoi, t'as peur? C'est quoi, je comprends pas. Et on le met, on joue avec lui, on l'a un peu déséquilibré. Et donc, il n'y a rien d'écrit. Il y a trois histoires qu'il n'avait pas lui-même envisagées. On lui dit, ça, c'est super, ça, c'est super, ça, c'est super. À notre avis, il faut le prendre avec cet angle-là. Et il est monté sur scène. Il a fait 15 minutes dessus, les gens par terre, des applaudissements, tout. Le truc qui m'a rendu fou, moi, c'est qu'il n'est pas précis. Moi, je suis précis de fou. J'adore. Au bout d'un moment donné, j'aime avoir la version optimale de la blague. Lui, il est au feeling à fond. Il arrive, il est capable de changer le plan parce qu'il le sent de telle manière. Et un truc qu'on s'est cassé la tête à faire super précis, il le fait comme il l'a envie. Et il éclate tout. Et c'est cool. Et puis c'est marrant aujourd'hui, de nulle part, il peut m'envoyer des vocaux. Moi, j'adore. Il n'y a pas bonjour, pas ça va. Il y a juste une idée, une blague, une rigolade, une observation. Mais ça, c'est un régal, ça. C'est une phrase qu'il a entendue qui le fait rire, un truc. Enfin, c'est magnifique.
J'aimerais qu'on écoute le tube que vous avez choisi.
Ouais.
Qui n'est pas vraiment un tube, en fait.
C'est pas vraiment un tube.
Non.
Mais bon, pour les zinzins de rap, c'est connu.
Ça s'intitule « Une main lave l'autre ».
Exactement.
Et c'est Alpha One.
Ouais.
Je m'épaissis, le lieu rétrécit, je me secoue. Je tape les murs comme un dépressif. Où est l'issue de secours? C'est dur d'ouvrir les yeux, je crois que je suis pété. Un gars en blouse blanche coupe le cordon. J'arrive dans cette douce France, une nuit d'été. Hey, moi je suis pas sorti du ventre de ma mère pour vendre de la merde. Jeune, Renoir introverti, esprit bien trop fertile pour le système scolaire. Avec les collègues, c'est au fond qu'on se collait. Là où les cancres et les fouteurs de merde se connectent dès le collège. Tu connais l'époque des pulls Comate. Cette époque est passée vite, une existence assez vide. L'adolescence assez vise. Très jeune, j'étais lassé de vivre. Aujourd'hui, je monte et guette les frères en descente. Cette vie est clairement stressante. J'y ai vu plus d'enterrement que de naissance. 1995, ma main gauche et ma main droite, l'entourage. Mon cœur et mon sang, mon gun et mon plan. Une main lave l'autre. Une main lave l'autre.
C'est, enfin, il y a tout. Enfin, les placements rythmiques, le fond, la forme. Pareil, comment aussi c'est digeste.
C'est une vie entière de la naissance à son âge en 3 minutes, quoi.
Il y a tout. Il y a à la fois des punchlines marrantes. Et à la fois des punchlines, ils te mettent un coup, c'est sombre, tu dis oh. Et ce mélange-là, c'est comme un plat avec plein d'épices, quoi. C'est sucré, salé, piquant, mais bien équilibré. Et ça touche tout le monde. Et c'est jamais vulgaire. Et ça peut être provocateur, et ça peut être très doux. C'est magnifique, j'adore.
Je suis celui dont la famille a très honte. J'existe à travers une mine de crayons. Mène une vie de mécréant. Le daron pense qu'il n'aurait pas dû venir ici. Fils, aîné lyriciste, menteur, voleur, consommateur d'illicite. Ma vie est flinguée, c'est moi le tireur. Quelle honte, j'ai des petits rêves. Faut que je m'écarte du mauvais chemin et que Dieu les garde. Ouais. Qui est cet inconnu dans le miroir de la salle de bain? Je sais que ce loser sera encore hal demain. La vie c'est un match, faut rentrer tous les shoots. J'suis de mauvaise humeur tous les jours. L'impression que l'enfer est sous mes shoes. J'rappe la gloire du matériel mais j'vise le paradis. Est-ce que je maximise mes chances quand tu assimiles mes chants? Chaque jour j'vais plus bas puis j'demande au loser, est-ce que t'as fini de descendre? J'ai un briquet, vas-y vide l'essence. J'perds mon temps à appliquer mon art et j'mène une vie d'ordure. Seule la prière peut recycler mon âme. Une main lave l'autre.
C'est autant un son qui peut me redonner de la joie quand j'suis un peu triste que un son qui peut me ramener les pieds sur terre quand je suis en euphorie. C'est ça que j'aime bien.
Il y a une séquence photo dans l'émission.
Ok.
On la ferait où, la photo?
Bah, y a, alors, on peut... devant peut-être l'affiche, là, qui est là. Allez. Qui est une peinture, d'ailleurs. Hein. Ou alors, j'ai mon léopard et le maillot de Zidane, aussi.
Le léopard? Ah ouais, oui, lui, ah oui, voilà. Oui, j'avais pas vu. Ouais. Et puis, il y a les post-it, c'est quoi? C'est les dates, là?
Ouais, ça, c'est la tournée internationale qu'on fait. On va jouer à Tokyo, c'est pas incroyable, ça? C'est rigolo, on est complet à Tokyo. C'est génial, je trouve ça fou.
Alors...
Super.
Allez-y, prenez-la. Parce qu'on va la regarder, en fait.
Ah ouais?
Ouais.
Faut faire le truc où je la secoue et tout, ou...
C'est marrant, tout le monde me demande ça.
Ouais, je sais pas pourquoi.
Non, je crois pas. C'est de l'autre côté, en fait.
Il y a écrit « Don't put in mouth ». Ok.
C'est bon?
Ouais, elle est super, cette photo.
Et alors, la carte blanche?
Ouais. C'était... Ah oui, la carte blanche. Bah, la dernière fois qu'on s'est vu.
Vous aviez choisi un poème, déjà.
Ouais. Et donc, j'ai repris un poème.
C'est pas le même
gars. Non, c'est pas le même.
Okay.
C'est le même gars.
Ok. Qui s'appelle comment?
Mais il veut pas qu'on sache. Il...
Ah ouais.
Vous voulez que je le lise? Allez, c'est parti.
L'arbre qu'on plante aujourd'hui fournira l'ombre au prochain. Même si nous n'en voyons pas le fruit, il nourrira le monde, c'est certain. Est-ce pour soi qu'on construit? Pourquoi poursuit-on le destin? À quoi bon creuser un puits quand vient la rosée du matin? Parce qu'on mesure l'œuvre d'une vie à tout ce qui dans l'héritage est pour tous utile et gratuit, tout ce qui traverse les âges, tout se mélange dans l'oubli. Le temps fait souvent le ménage, mais quand on laisse un outil, on devient le paysage.
C'est de vous, en fait.
Hein?
Vous voulez pas le dire, c'est de vous, en fait.
Mais j'aurais adoré que ce soit moi. Ouais, vraiment, moi je fous ma gueule partout. Si c'était moi, j'aurais été le premier.
Bon, merci beaucoup, Romain de Frayssinet.
Eh ben, avec grand plaisir. Merci à vous.
Eh oui.
À partir de septembre, Romain de Frayssinet sera en tournée avec Au-delà, son nouveau spectacle. Ça commence au Corum de Montpellier les 5, 6 et 7 septembre. Suivront Nantes, Strasbourg, Marseille, Lyon, etc. Et 18 dates à l'Olympia entre le 26 novembre et le 12 décembre. 18 Olympia, j'ai fait le calcul. Ça fait 36 000 personnes en tout.